C'est le dernier dimanche avant le carême. Le carême commence quand même. Dans 3 jours. L'année 2019. Oui, et nous aimons bien, d'ailleurs, on aime toujours les lectures. Dans l'église se propose de rentrer comme ça, collectivement, unanimement, à chaque fois, chaque jour. C'est incroyable, je suis de plus en plus impressionné par la puissance de la puissance divine de cette parole de Dieu dans laquelle rentre l'église chaque jour. La liturgie a vraiment quelque chose de circulaire, de transversal. Et d'anagogique, il y a quelque chose de très... On se lasse pas, hein. Et c'est très très bien de lire la Bible au rythme que l'Église propose. C'est pas la même chose de lire la Bible comme ça. Et puis de lire, de se nourrir de la parole de Dieu. Au fur et à mesure des jours et des jours, les psaumes de matine, les docteurs... Les livres de la sagesse, mais au rythme, ça, les épîtres, les évangiles. Parce que ils se nouent les uns aux autres, comme ça, dans le cœur de l'Église de Jésus. Et il faut les lire tranquillement, naviguer avec elle, pénétrer dans la Jérusalem de Dieu avec elle, avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture, le Verbe de Dieu. D'ailleurs, il y a un antienne là, de l'Évangile magnifique. Et si vous brillez comme des astres dans l'univers, c'est parce que vous tenez ferme le Verbe de la parole, le Verbe vivant, la parole de la vie, le cos, l'évité. Vous tenez ferme, on tient ferme. On tient ferme, c'est en même temps, on tient fermement entre nos mains la personne manifestant la révélation de Dieu en lui-même, le Verbe de Dieu, qui est vivant. Et ça, c'est une nourriture, le Verbe est une nourriture à travers ça, ça. Et en tenant ferme, c'est une expression extraordinaire, ça. Avec mes mains, c'est-à-dire avec... le prolongement de Dieu dans ma vie humaine pour retourner à Dieu, c'est ça, les mains, je tiens fermement le Verbe de vie, la deuxième personne de la très sainte Trinité, c'est-à-dire la manière dont Dieu conçoit Dieu, manifeste Dieu, réalise la splendeur éternelle de Dieu, ça je le tiens dans mes mains, fermement. Expression extraordinaire. Alors à ce moment-là, on est comme des soleils qui brillent avec l'univers. Ouais, et en plus c'est vrai, quoi, c'est vrai. C'est... Voilà. J'ai bien aimé dans le Siracide, quand on compare Saint Joseph, enfin, ils disent pas c'est Saint Joseph, le bout de la Vierge, mais enfin on comprend, quoi, à un palmier. Un cèdre du Liban. Il grandit. C'est extraordinaire, un palmier, quand on y pense, il grandit. Il faut voir un palmier, comment c'est vraiment un arbre qui est très curieux. Hein. Il a des racines, une sécheresse incroyable, il pousse dans les trucs les plus secs. Le palmier, là. Et pourtant, il annonce quelque part la possibilité qu'il y ait un jour un immense oasis. Et puis, au fur et à mesure, il grandit. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Au bout de 10 ans, il a grandi de ça, il n'y a rien, quoi. Enfin, au sommet, c'est quelque chose qui va devenir rien. Au bout d'années, d'un nombre d'années incroyable, il va grandir sur 10, 15, 20, 30 mètres. Et puis il y aura un fruit là-haut, c'est tout. C'est extraordinaire, un palmier. Et puis en dessous, en dessous du fruit, bah, c'est des écorces sèches et puis du poil. Tu mets une allumette, pff, ça flambe. C'est extraordinaire ça. Et Saint-Joseph, c'est comme un palmier qui grandit. Et c'est seulement à la fin qu'il y a du fruit. Saint-Joseph, c'est ça, la justice. Être ajusté et tenir fermement avec le Père le verbe de vie. Tout le long du parcours de la croissance du temps jusqu'à la fin du temps. Et ça donne du fruit en son temps. Et on juge l'arbre au fruit qu'il porte, donc on jugera ce qui est sorti du soleil de Saint-Joseph seulement à la fin du monde. Et il est pareil pour le cèdre du Liban. Le cèdre du Liban, c'est... C'est vrai que le cèdre, enfin, au Liban, enfin, quand on les voit... On n'en voit plus, malheureusement, c'est là où on voit que quand même la sagesse de l'homme n'est pas porte un fruit de désastre, donc il n'y a plus de tout, il n'y a plus de cèdres. Il y avait des centaines de millions de cèdres au Liban. On n'en pratiquement plus. Alors faut fouiller là-haut, des exceptions, quoi. Mais tout de même, un cèdre du Liban, comment ça pousse, c'est pareil. Comment ça pousse, et une fois qu'il a poussé, il couvre complètement la montagne, il la protège, il obombre. C'est une obombration. Alors en même temps, c'est un palmier, puis en même temps, c'est l'obombrant. En même temps, Saint-Joseph donne son fruit, c'est ça, une espèce de d'obombration extraordinaire qui fait que dans les périodes les plus chaudes, on est dans l'immense fraîcheur du Saint-Esprit. Et il couvre la montagne de l'Immaculée Conception, du Verbe de Dieu, s'exprimant aussi bien sur la terre que dans le ciel. Voilà, on juge un arbre à son fruit. Dans le cœur de Saint-Joseph, il y a quelque chose qui fait que il tient fermement ce qui est à l'intérieur de Dieu le Père, qui est la manifestation de sa propre splendeur éternelle. Et ça, c'est la sagesse de celui qui est juste, celui qui est juste par excellence. Son cœur est bon. Tandis que celui qui a le cœur mauvais, eh ben, c'est différent. Il donne un fruit qui est pourri. C'est pourri. Tout de suite, il veut le résultat immédiat, immédiatement. Et c'est pourri, et ça pourrit immédiatement. C'est pas une amitié solide, c'est une amitié qui se transforme en une amitié. C'est un bien qui se transforme en objet de destruction. Tandis que quand on parcourt tous les temps, quand le cœur qui est le nôtre, depuis le oui originel, s'élance comme ça, le Père, jusque dans son. En faisant le parcours de l'homme de Dieu et dans l'humanité tout entière, jusqu'à la fin des temps, alors le cœur, la parole qui sort de sa bouche, donne son fruit, on montre ce qu'il est. À la fin du monde, Saint-Joseph est là. On peut voir, quoi, qu'est-ce qu'il y a. Ça montre bien la patience aussi. Un jour, il y aura le roi, il y aura le grand saint, parce que la terre, la femme, dans les douleurs de l'enfantement, va donner son fruit. Un enfant de Dieu, elle va donner son fruit. Qu'il est véritablement la gloire du véritable Israël au milieu des multitudes. La gloire de l'épanouissement des temps dans la succession de l'histoire du peuple de Dieu depuis la création d'Adam. Et puis, dès sa naissance, il sera emporté avec les ailes du grand aigle. Emporté avec les ailes du grand aigle dans le désert. chemin pour voir son fruit, pour voir son cœur, à ce grand saint que l'Église attend, que la parousie annonce, que pour voir son fruit, il faudra attendre. Il faudra attendre, c'est vrai. Emporter avec deux grands ailes, tu rentres, la contemplation. La contemplation du Verbe éternel de Dieu. Et ces deux ailes, ce sont ces deux processions dans lesquelles il y a le principe. Tenir fermement la parole de vie. Si tu n'y vois rien, il vaut mieux pas parler. C'est vrai, il y a des prophètes qui croient être des prophètes. Il ferait mieux de se taire. S'ils ne voient pas, s'ils ne voient rien, mais qu'ils se taisent. Un aveugle. Il n'a pas à parler comme s'il n'était pas aveugle. Ce n'est pas les choses de la terre qui permettent à ceux qui t'entendent de tenir fermement le Verbe éternel de Dieu dans ses processions intérieures. La vie intérieure, la vie humaine, c'est un parcours depuis le premier homme jusqu'au dernier, à travers ton cœur. Et c'est le Verbe de Dieu. Ah ben c'est vrai, ça. Bon, quelquefois on dit, on représente l'aigle, c'est ce qu'il y a de plus élevé, de plus éternel, de plus immortel, de plus profond, de plus splendide, de plus lumineux dans le Christ. C'est sa subsistance en sa propre hypostase, de conception agréée de Dieu. Dieu est une conception de ce qu'on soit continuellement comme Dieu. Dieu est éternellement conçu. C'est un amour fou, une splendeur magnifique. Mais si tu ne pénètres pas dans ton cœur, si tu ne la laisses pas pénétrer, si tu ne laisses pas emporter, parce que c'est un emportement, la grâce sanctifiante, la grâce de la justification, on est ajusté, emporté et assumé. Et dans cette assomption, l'assomption de notre contemplation, extasiée de Dieu, qui a duré fermement, continuellement, dans une transformation virginale, surnaturelle, parfaite, accomplie, surabondante, pénétrante et assumante. Alors oui, bien sûr, à un moment donné, Dieu nous prend. C'est beau ça, ce passage de la quatrième à la cinquième demeure. Dieu nous prend. Et il nous installe à l'intérieur de lui pour qu'on puisse grandir. 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 Jusqu'à la fin du monde. Et on le voit bien, ça, c'est sûr. Donc à un moment donné, ça y est. Je veux voir Dieu se muer en. Je suis assumé en Dieu. Et tu oui, à partir de cette assomption, dans l'éternité de Dieu, à tout ce qui se passe sur la terre, Jésus est monté au ciel, est assis à la droite du Père, et il revient. Dans ce passage, de la cinquième à la sixième demeure, à l'intérieur de celui qui est juste, les deux ailes du grand aigle. Mais un aveugle ne peut pas guetter un autre aigle. Il ne peut pas. C'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps que l'immense palmier là, monte à la cime des cieux. Puis, et le c'est énorme. C'est pas une poutre. C'est pas une poutre. Alors, faut pas loucher sur la paille parce que c'est pas un petit effort qu'on a fait, qui a été fait, etc., qui compte. Mais non, t'occupes pas de la paille. C'est la poutre qui compte. C'est le truc qui a duré, quoi. C'est le truc qui a duré et qui a abouti à la fin, parce que est le fruit de l'arbre. Voilà. Et si est transformé en croix, cisaillé en croix, c'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qu'il faut regarder dans ton œil. À ce moment-là, les petites choses là-bas, les toutes petites choses, d'accord, on peut les regarder aussi, un petit peu, en passant, sans s'y attarder, et avec un cœur qui est bon. C'est curieux, ça. On ne perd pas de temps, hein. On ne perd jamais de temps. Tout ce qu'on fait est impérissable, immortel, incorruptible, irréversible. Dès lors que c'est l'éternité de Dieu qui palpite à l'intérieur de notre vision du prochain, notre vision de Dieu, et la vision de Dieu à travers nous de toutes choses, ça reste incorruptible. C'est ça le jugement. Oui, tu vois. Tu juges la poutre, tu juges la paille, tu juges l'aveugle. Il n'y a qu'un seul jugement. Un seul jugement. Et c'est, comme le dit l'Épître aux Corinthiens, c'est la Torah, c'est la révélation qui démasque le péché. Et le péché, c'est ne pas pénétrer dans la lumière par la foi. La lumière intérieure et vivante de Dieu. C'est ça le péché. Je suis venu pour un jugement. Un triple jugement. L'aveugle, la paille et la poutre. Très simple. Quand Jésus est venu, le Dieu est venu, et que Saint Joseph est venu, que l'Immaculée Conception est là, et qu'elle habite comme une maman à l'intérieur de chacun d'entre nous et de l'Église et de l'humanité tout entière, de manière palpable, sans voile directement, dans la mise en place du corps. C'est ça, le jugement. Elle montre, Jésus montre, l'épouse montre où est le péché. Le péché, c'est qu'on ne rentre pas dans une foi lumineuse qui l'ouvre, nous ouvre la lumière, dans la lumière, et à l'intérieur de la lumière vivante de Dieu. C'est ça le péché. Là, on voit où est le péché. Le péché, c'est de ne pas faire une bêtise. Oui, d'accord, papa. Ah, ma langue a fourché. Mais oui, d'accord, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai mal lu l'épître.
Très bien.
Mal lu l'épître. Le péché, c'est pas que c'est une espèce de tout intérieur. Il est venu pour juger le monde. Le monde est rempli de ténèbres. Il est venu pour juger Satan, qui est pourtant l'être de lumière substantielle, sans limite et sans fin par excellence, ouvert à l'amour. Il est venu pour le juger. Oui, c'est vrai, pour montrer. Que c'est pas mon opinion, ce n'est pas ma parole, c'est pas mon cœur qui peut voir, qui peut engendrer le fruit, qui peut engendrer la mort incorruptible. Voilà, je suis venu pour un triple jugement. Et celui qui ne voit pas le péché, qui ne voit plus. Aujourd'hui, c'est terrible, ça. On est face au péché, là, c'est-à-dire le méchant, mais le plus aveuglant qui soit, tu peux, plus gros, tu peux pas, tu vois, quand tu es sur l'autoroute, tu peux bien sûr peut-être ne pas voir qu'il y a une petite porte dans le goudron. Quand tu te trouves face à un abîme au milieu de l'autoroute, tu ne le vois pas. Et tu ne vois pas. Pitié pour ceux qui ne le voient pas, qui l'oublient complètement. Ils fuient, ils tomberont dans un trou. ils amènent tout le monde dans le trou. Non, c'est pas ça. Ça, c'est très très moderne, enfin, c'est très très contemporain. C'est très contemporain. C'est sordide, mais c'est comme ça, bon. Mais on va pas... Non, on va pas s'arrêter là-dessus. Hein? Puisque nous, on fonctionne sur un hiéroglisseur. Donc, je tiens un abîme, on continue. C'est formidable, l'hiéroglisseur. Mais on le sait. On sait qu'il y a cet abîme. Mais on regarde les deux ailes du grand aigle. On est porté par l'aigle. Et on va dans le désert. On va dans le désert de l'immaculée conception, dans sa fécondité incréée, dans l'intérieur du créé, du monde divin lui-même, qui de l'éternité pénètre dans le monde divin pur, accompli, surabondant du créé et l'introduit sans aucune espace, sans aucune interruption, de manière circulaire, verticale et transversale, comme dit Saint Denis, d'une manière angélique, sans limite, sans fin. Voilà, on est porté là, et on vole dans cet univers de lumière. Alors là, on voit où est le péché, c'est quand il n'y a pas la foi, c'est terrible. C'est la destruction de la création, parce qu'il n'y a pas la foi. Le juste, la justification. Cette justification que nous formons en formant la vie divine de Jésus dans les enfants, en pénétrant chacun d'entre eux. C'est ça le travail du roi, du véritable Israël de Dieu sur la terre, de cet enfant qui est le fruit de la terre et de l'Église souffrante à la fin. La formation de la vie divine dans l'âme de tous les enfants. C'est ça, la vocation, la mission du véritable Israël de Dieu, du règne du Sacré-Cœur qui doit se répandre partout dans le monde, jusqu'aux confins du ciel, et jusqu'aux confins de l'anastase, jusqu'aux confins des relations intimes et agréées éternelles de Dieu, à l'intérieur de la fécondité eucharistique infaillible de Marie. Eh oui, 283e jour. Alors, la leçon c'est quoi? Eh ben, reste tranquille. Abandonne-toi. Prends la Jérusalem divine qui vient jusqu'à toi. Parce que je cherche à s'emparer de toi. Non? Et va, voilà, la vie court. La vie grandit. Et dans l'océan de la lumière, de la foi, parfaite, immaculée, virginale, surnaturelle, parfaitement divine de la fin. Ne t'occupe pas de la paille et du plomb. C'est ça. Et puis, cette espèce d'énorme poutre qui est dans l'œil de la création spirituelle, Lucifer, voilà, qui ne veut qu'une seule chose, c'est tailler une croix qui vienne broyer, j'allais dire, toute lumière dans le regard spirituel de toute créature, quelle qu'elle soit. Ben, enlève-la. Enlève-la, cette... C'est, tu peux pas l'enlever, bien sûr, mais il faut que tu dégages de tout jugement. Le jugement remet quelqu'un d'autre. C'est pas à toi de juger, tu ne condamnes personne. Personne, c'est tout. C'est derrière toi. Toi, tu voles librement comme un enfant. La prière jeûnique de la Jérusalem, dans la Jérusalem dernière, à l'intérieur de l'Arche d'Alliance, à l'intérieur de la paternité incréée de Dieu, où le Verbe de Dieu, tu tiens fermement la parole de vie. Fermement, fermement, et tes demain, c'est-à-dire dans l'oraison de la sixième et septième demeure, c'est dans l'oraison de la sixième et septième demeure, les demain, qu'il y a la procession de l'hypostase de la troisième personne, de la troisième trinité, dans ton âme, à travers l'âme de toute création spirituelle, devenue semblable à celle de Marie assumée. Et le prolongement créé dans le monde créé, de la sponsalité dans l'un, deux mains, quoi, qui tiennent fermement la sixième et septième demeure, et ceux qui ont été jusqu'au bout, fermement, tranquillement, en grandissant, ils auront grandi là-dedans, jour après jour, semaine après semaine, année après année, ils seront pris. Ils seront pris. Les autres sont surpris. Donc la leçon est très bonne et très facile à comprendre. T'affole pas, ne te scandalise pas, ne condamne pas, n'étale pas la condamnation dans le monde entier. Ne fais pas tomber pour la perdition éternelle le maximum de gens. Et donne une parole qu'il faut que les gens ne tombent pas dans le trou. Si tu dois donner une parole, et la première parole que tu dois donner, c'est le rayonnement du Verbe de Dieu à l'intérieur de la création spirituelle entière, et en pénétrant d'ailleurs là où elle se trouve pour la diffuser et la faire rayonner par surabondance. Au-delà du voile de la lumière de gloire, et la première fois que la lumière de gloire dans la création spirituelle à pénétrer, c'était Saint Joseph dans le fond de la croix glorieuse. Attache-toi, Saint Joseph, dans la sponsorité agréée de l'un, assumée et féconde, réellement, une nouvelle création de ta vision intérieure, dans la vision de Dieu, s'opérera. Voilà la leçon de parole de Dieu aujourd'hui, une leçon qui est évidente, on la connaît bien, on le sait bien, mais c'est que comme tous les jours, l'Église répète, revient, redonne toujours une nouvelle parole, avec des révélations différentes, qui se croisent mais différemment, mais qui finalement nous relancent à nouveau, toujours, dans le même royaume du soleil éclatant de l'amour incréé de Dieu dans notre lumière. Et c'est là qu'on voit que l'âme est une lumière, que la foi est une lumière et que l'Esprit Saint est lumière. Ah, c'est dernier dimanche, c'est pas rien, vous savez, dernier dimanche. Hein. C'est dernier dimanche. Il va falloir partir, quoi. Et on peut demander quand même à la messe, on peut demander tous les miracles à une messe. Hein. Donc la messe d'aujourd'hui, alors on peut demander. La messe, c'est vraiment le moment de demander un miracle, s'engloutir et de s'accrocher et de recevoir le miracle et partir avec ça. Il t'est mis à est, hein, c'est un miracle, c'est que notre vie soit totalement nouvelle, ancrée dans la lumière du monde nouveau. Et que ce soit pas juste. Non, que ce soit pas juste une. Bon, non, que ce soit. Qu'à l'intérieur de nous, notre raison, elle sache où elle va, dans quelle lumière elle pénètre, dans quelle lumière elle grandit, dans quel fruit elle se répand. Et ce qui en est le créateur de cette lumière. C'est quoi les ailes du grand être qui nous emportent dans cette lumière et cette vie intérieure qui est la nôtre, qui devient la nôtre à partir de là. Cette vie intérieure, cette devient de plus en plus lumineuse, de plus en plus évidente, ça devient notre monde à nous. Voilà, et ben en avant. On va dire je crois en Dieu pour que cette lumière, justement, que nous venons visiter chaque âme largement ouverte. Les gens qu'on a rencontrés depuis une semaine, on a le pouvoir, hein, avec Jésus vivant, sa présence vivante, vivante, lumineuse, tranquille, paisible, libre, divine, messianique, on peut, avec lui rentrer dans l'âme des gens qu'on a vus cette semaine, des gens. Et déployer. À ce moment-là, déposer à l'intérieur d'eux en passant dans chacune de ces âmes, déposer l'émanation des fruits de tous les sacrements. Pour que le travail puisse se faire de la transformation du monde et qu'on puisse se dégager de l'esprit du monde, se dégager de Lucifer et se dégager de l'athéisme. Et on se dégager ensemble, c'est pas tout seul qu'on fait ça, on se dégage ensemble, ce décollage, cet arrachement pour aller vers le monde nouveau. C'est incroyable de voir comment Saint-Joseph n'a pas fait un seul pas sans s'unir comme ça aux âmes que Dieu lui montrait sur sa route. Et on fait partie des âmes humaines que Dieu met sur sa route. Et pour l'Immaculée Conception, c'est pareil, évidemment. Ce sont vraiment les deux colonnes, hein, qui nous montrent, hein, lorsqu'elles se... parce que ça se trouve dans l'amour séparant, qui nous montre comment fonctionne la foi vivante, incarnée et surnaturelle, et chrétienne et justifiante du chrétien sur la terre. Voilà. Dieu soit béni, on dit le credo, comme ça, 14h44.